Donc, à ce point optimal de la crise, eh bien, la réaction diplomatique, on va dire, reprend ses droits, Dieu merci. Alors, il y a deux types de messages, si on peut dire, deux types de communication, les notes officielles du Kremlin, hein, et puis des lettres secrètes que Khrouchtchev adresse à Kennedy. Et dès le 26 octobre, le marchandage est proposé par Khrouchtchev. L'URSS retire ses missiles de Cuba et en échange, dans un premier temps, enfin, premier élément, les USA s'engagent à ne pas envahir l'île. Donc, garantie pour Cuba par Kennedy de ne plus tenter d'envahir l'île. Cette garantie vaut aussi pour tous les alliés occidentaux, on veut dire. Il garantit l'intégrité de l'île de Cuba. Et autre élément, mais qui va survenir après, ou tout au moins qui ne sera pas communiqué en public, ça sera du secret, ça sera le démantèlement des bases, alors de missiles, détenus par l'Amérique, notamment en Turquie, et qui menacent aussi, qui sont braqués déjà sur l'URSS aussi, et également il y en a en Italie et en Grande-Bretagne. Alors le 27 octobre 1962, Radio Moscou, parce que à l'époque, bon, bien, c'est un peu long quand même pour transmettre les messages, hein, on n'utilise pas le téléphone apparemment, et donc... il y a une certaine lenteur, donc pour, comme il faut agir d'heure en heure, vu le risque, eh bien Khrouchtchev utilise par exemple Radio Moscou pour faire connaître ses positions officielles. Donc Radio Moscou annonce le démontage des missiles de Cuba, hein, par l'URSS, et il annonce aussi donc l'engagement, hein, qui réclamait des USA, encore une fois, de garantir l'intégrité de l'île, de ne plus rééditer la tentative initiée en 1960 lors de la TATC, la baie des cochons. Voilà. Et dans la matinée du 27 octobre 1962, donc les fusées soviétiques, alors là, il y a un incident qui menacerait de relancer la crise, et bien les fusées soviétiques à Cuba abattent un U-2 US qui surveille l'île. Bon, voilà. Mais il n'y a pas de conséquences. D'ailleurs, il n'y aura pas de conséquences. La diplomatie a repris ses droits. Et donc, il y aura 5 morts en tout, quand même, dans cette crise. Le pilote, et puis 4 militaires, disons, qui sont sur un bombardier, mais par un décès accidentel d'un avion qui rate son décollage. Hein, voilà. Et donc, il y a cette double attitude. Voilà. Cette attitude, notamment au niveau russe, qui exprime, enfin il y a une attitude à la fois de souplesse et de fermeté. Là pour le coup Khrouchtchev veut se retirer, hein. Il est favorable à un accord, hein. Simplement contre le renoncement, encore une fois, de Kennedy à toute agression contre son ami Fidel Castro. Mais côté russe aussi il y a des va-t-en-guerre, donc il y a des dissensions, un conflit au plus haut sommet, au Kremlin. Hein. Et donc, chose faite, Kennedy garantit l'intégrité de Cuba, hein, par sa réponse du 27 octobre, et Khrouchtchev aussitôt fait démonter, remballer les fusées le lendemain 28 octobre. Et Radio Moscou annonce ce démontage et cette neutralisation de l'armement soviétique. Et donc, dès lors, on est vers la sortie de crise. Alors je vous lirai l'explication que Khrouchtchev donne au Soviet suprême sur cette crise a posteriori dans son discours qu'il prononce le 12 octobre 1962. Enfin, son explication, bien sûr, de son point de vue. Donc, alors la conclusion de l'affaire, je vais peut-être vous la donner, ce texte. Le temps que je le trouve, hein, parce que il me faut un certain temps, mais donc à la radio il faut pas, le silence est mortel, donc c'est pas évident. Alors je recherche le discours où il donne l'explication, hein. Donc voilà, dans cette journée donc du 27 octobre, Khrouchtchev donc donne sa version pour couvrir, il faut le dire aussi, sa retraite quand même, hein. Mais on verra que c'est pas aussi évident que ça. Apparemment, il est déconfit, hein, puisqu'il a cédé à la menace de Kennedy. Mais on s'apercevra que Kennedy, c'est une victoire aussi apparente, et que Khrouchtchev n'est pas forcément le vaincu. On ne sait pas trop qui est le vainqueur et le vaincu dans cette affaire. Et donc, il donnera posteriori, je l'ai dit au Soviet suprême, le Parlement russe, hein, dans son discours du 12 décembre 1962. Alors, dans le document que j'ai, notamment, parmi les documents que j'ai consultés, c'est un ancien, une ancienne revue à la une, hein, historique des années 70, mais qui me paraît là très pro-soviétique, on va dire. La tendance de l'auteur est très, très favorable, hein, à Khrouchtchev et aux soviétiques. Donc il faut garder un peu la distance. Alors voilà ce qu'il déclare. J'ouvre les guillemets. Le 27 octobre au matin, nous reçûmes des camarades cubains et d'autres sources une information annonçant directement qu'une attaque serait effectuée dans les 2 ou 3 prochains jours. Nous vîmes dans les télégrammes reçus un signal d'alarme extrême, et cette alarme était fondée. Des actes immédiats étaient nécessaires pour prévenir l'attaque contre Cuba et sauvegarder la paix. Hein, voilà. Donc il ne parle pas des missiles qu'il a installés, hein, et qui sont pas seulement une option défensive, mais qui sont une menace, hein, évidente et une pression insupportable pour les États-Unis. Hein, bon. Donc Cuba, dit-il, prévenir l'attaque contre Cuba, sauvegarder la paix. Un message fut adressé au président des États-Unis, suggérant une décision naturellement acceptable. Nous déclarâmes que si les États-Unis prenaient l'engagement de ne pas envahir Cuba et empêchaient une agression contre Cuba de la part de leurs alliés, l'Union soviétique serait prête à retirer de Cuba l'armement que les États-Unis qualifiaient d'offensif. Alors ce discours a été publié dans la Pravda du 13 décembre 1962. Donc dès lors, on est dans une ambiance, à partir de ce 27 octobre, donc on est dans une ambiance là de retombée, de crise. Voilà. Et Kennedy, alors c'est un petit peu maintenant la leçon à tirer, quelle est-elle? Kennedy, lui, remporte un succès de prestige immédiat, hein, donc, et qui lave, disons, annule, si on peut dire, le scandale, la honte, l'humiliation de la baie des cochons. Hein. Mais à noter quand même, là aussi, donc, à l'appui de cette défaite apparente de Khrouchtchev, la réaction chinoise aussi. Les Chinois soutenaient dès le début les Russes, hein, et les Chinois donc de Mao. Hein. Donc, et là, retrait des missiles, eh bien, la presse chinoise contre-attaque. Attaque Khrouchtchev. Elle qualifie son attitude d'aventurisme et de capitulationnisme. Voilà. Donc, toujours défaite apparente. Et il obtient toutefois, alors c'est ce qui n'a pas été, apparemment ça n'a pas été mis dans les résultats officiels, si vous voulez. Ça a été un élément secret, tout au moins temporairement tenu secret. Eh bien, Kennedy s'est engagé et l'a réalisé à enlever les missiles qui existaient, notamment en Turquie, voire en Grande-Bretagne et en Italie. Mais on parle surtout de la Turquie, qui était braquée sur l'URSS. Voilà. Et puis alors l'effet aussi, c'est que désormais, on est dans cette situation de dissuasion nucléaire, hein, qui fait que, en fait, plus la menace est grande, plus la paix est garantie en quelque sorte, parce qu'on sait que toute attaque est suicidaire, toute attaque se retournerait contre celui qui la lancerait, puisque ça serait la destruction totale. Et désormais, ce sont les chefs d'État qui ont la mainmise sur le nucléaire, hein. Ça n'est plus l'armée. Alors on sait que lors de l'élection d'un président de la République, eh bien, le prédécesseur, le sortant, on va dire, lors de la première rencontre, donne la clé, le code en quelque sorte, pour utiliser l'arme nucléaire. Hein. Et puis à noter aussi l'attitude de Gaulle pendant toute cette crise. De Gaulle qui avait pris ses distances avec les États-Unis et qui s'était rapproché de l'URSS. Alors De Gaulle annonce sans ambiguïté pendant cette crise son soutien absolu aux États-Unis, son soutien absolu à Kennedy. Et puis quand même l'URSS obtient, donc là je le dis, cette garantie de l'intégrité de Cuba, mais bon, en somme, elle paraissait peut-être évidente parce que après le risque nucléaire qui était tellement imminent, on peut imaginer que les USA ne prendraient plus le risque d'attaquer, ils prendraient plus le risque d'attaquer Cuba. Et on sait que, encore une fois, que les moyens techniques de l'époque, la technologie, si on peut dire, les armes nucléaires pouvaient atteindre aussi bien Moscou que Washington réciproquement. Hein. Ils pouvaient se détruire à distance. Donc, bon, c'est une garantie diplomatique officielle. Néanmoins, Castro donc est maintenu, hein, et il a survécu. Il n'est plus là, mais on va dire il a disparu. Son régime est toujours là, il est toujours vivant. Et c'est son frère Raoul qui a pris la suite. Hein. Donc, le régime castrien est consolidé et il est carrément ancré à l'époque dans le bloc soviétique et hors de la zone influence US. Voilà. Et on sait que Castro, lui, était très belliciste. Hein, et à la moindre attaque, il demandait que Khrouchtchev déclenche les missiles contre les USA. Voilà. Donc, on en est là. Et Khrouchtchev se félicite aussi dans ses mémoires d'avoir atteint ce résultat, hein, c'est-à-dire Cuba, un Cuba socialiste, sans tirer un seul coup de feu. Voilà. Et néanmoins, malgré tout, hein, on peut supposer qu'il voulait, enfin je ne sais pas, psychologiquement, il voulait maintenir, croyant un président faible, un bleu en quelque sorte, hein, lui le vieux routier, un président un peu lâche, un peu poltron, il croyait abuser de la situation, et donc il a implanté ses missiles, dans l'esprit de les maintenir, à l'évidence. Il était improbable qu'il ait voulu faire là qu'une provocation à une telle échelle et à un tel degré de risque, uniquement pour obtenir des garanties pour Cuba et également pour l'enlèvement des missiles en Turquie. Voilà. Donc, et puis il faut remarquer que Khrouchtchev a été limogé, si on peut dire, il y a eu une espèce de révolution de palais. Deux ans plus tard, hein, en 1964, il a été évacué du pouvoir par Brejnev. Bon, il n'a pas subi, comme d'autres dans le passé sous Staline, il n'a pas été emprisonné ni exécuté. Il a conservé sa datcha, il a écrit ses mémoires, il a été mis en retraite. Et il a d'ailleurs écrit ses mémoires et les a publiés, les a fait publier à l'Est. Hein, voilà, il les a exfiltrés. Voilà. Donc, tel est le... La conclusion qui est toujours en forme de point d'interrogation. Donc, après la pause musicale, dernière pause musicale, eh bien, nous referons une petite conclusion générale, une observation générale et un épilogue aussi, peut-être, sur cette situation, en l'actualisant. C'est déjà de l'histoire contemporaine, mais en évoquant la situation d'aujourd'hui, hein, au XXIe siècle. Donc, nous nous retrouvons après, encore une fois, des chansons américaine des années 60, des grands tubes de l'époque. À bientôt.